En plein cœur de la Semaine nationale des troubles alimentaires, ça me fait plaisir de parler avec Jérôme Tremblay, sexologue et coordonnateur chez Anorexie et Boulimie Québec, qu'on appelle aussi ANEB Québec. Bonjour, M. Tremblay.
Bonjour.
Le thème cette année, c'est pas « Vas-y, t'es capable », c'est « Depuis le début de la pandémie, les troubles alimentaires ne cessent d'augmenter ». Ça peut pas être plus clair, là. Alors, vous avez pu remarquer une hausse des personnes aux prises avec ce nouveau trouble ou bien des personnes qui rechutent ou l'ensemble des deux?
Je vous dirais que c'est un ensemble des deux. Là, on a vraiment beaucoup de demandes de services, de gens que c'est la première fois qu'ils en parlent ou qui réalisent que le trouble est présent dans leur vie ou qui se questionnent par rapport à la présence du trouble alimentaire. Puis on a également, depuis le début de la deuxième vague, là, si on peut dire, là, de la pandémie, c'est vraiment beaucoup des gens qui nous contactent en rechute, là, donc qui s'étaient rétablis du trouble alimentaire, mais que là, dans la situation actuelle qui est plus grande que nature, qui est pas habituelle, hein, on va se dire, c'est assez nouveau. Donc là, on perd nos repères, puis on retourne dans des comportements qui procuraient à quelque part à l'époque un certain sens de sécurité. Donc, à travers cette tempête-là de pandémie, on retourne vers ces vieux démons-là pour se stabiliser un peu.
Ah oui, j'ai lu qu'en ligne seulement, l'organisme a enregistré une hausse de 131% des demandes.
Oui, exactement. Donc, on a vraiment, là, en 6 mois, on a fait déjà beaucoup plus que nos chiffres complets de l'année dernière, notre année financière précédente.
Et M. Tremblay, qu'est-ce qui caractérise un trouble alimentaire? Qu'est-ce que c'est exactement?
Donc, un trouble alimentaire, c'est beaucoup à la base un enjeu de contrôle. Donc, une personne qui sent qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle sur son environnement, qui va aller le chercher par les moyens. Donc, la seule chose que personne d'autre que nous peut contrôler, c'est notre corps. Puis, c'est sûr qu'à quelque part, ça cache une énorme souffrance par rapport à l'univers émotif, hein, qui est difficile à tolérer, à vivre aussi. Donc, beaucoup de difficultés à se permettre de vivre ses émotions, de vivre une certaine vulnérabilité. Donc, c'est beaucoup une façade, une construction d'une façade, un peu comme, on le compare beaucoup avec les problématiques de troubles de l'usage, par exemple, donc toxicomanie, alcoolisme, c'est des problématiques qui se ressemblent énormément, en fait. Des souffrances très similaires. Donc, de venir essayer de pallier une souffrance par un comportement, dans ce cas-ci, des comportements alimentaires, soit d'outre-manger, soit de ne pas manger du tout, ou avec des comportements compensatoires, par exemple.
Vous parlez d'un enjeu de contrôle, mais il y a du contrôle, mais il y a aussi un dérapage.
Oui, ben c'est ça. En fait, on dit beaucoup enjeu de contrôle, mais moi, comment je l'explique quand je donne des formations, c'est surtout c'est une illusion de contrôle.
Okay.
On se donne l'illusion qu'on est en parfait contrôle de notre corps, ce qui nous mène inévitablement à des pertes de contrôle, par exemple au niveau alimentaire, dans le cas de la boulimie ou dans le cas de l'hyperphagie, où on a été tellement dans une restriction qui était stricte qu'à un certain moment, le corps, ben, il n'en peut plus. Puis, il va vouloir aller chercher les nutriments. Donc, il va y avoir un certain dérapage, une crise alimentaire, là, comme on pourrait appeler à ce niveau-là.
Et c'est vrai qu'il y a 1 million de Canadiens qui vivent avec un trouble alimentaire?
En fait, la statistique est qu'il y a 1 million de Canadiens qui répondraient aux critères des troubles alimentaires sans nécessairement avoir un diagnostic officiel là, de la maladie. Donc, ça montre que c'est quand même un phénomène qui est assez présent. C'est un phénomène qui est difficile à diagnostiquer également parce que c'est un phénomène qui évolue rapidement dans le temps. Donc, c'est difficile d'entrer dans une case là, comme l'anorexie, par exemple, puis d'y rester parce que ça peut facilement évoluer vers la boulimie, bouger dans le temps vers l'hyperphagie, par exemple. Donc, le diagnostic est très difficile à émettre.
Et j'imagine que la personne qui vit ce trouble alimentaire ne doit pas se sentir bien, mais est-ce qu'elle le sait qu'elle le vit, ce trouble-là? Qu'est-ce qui caractérise le trouble alimentaire, puis comment on peut s'en rendre compte? Même l'entourage aussi, qui peut être aussi, inconsciente ou pas vraiment voir que la personne à nos côtés a des problèmes.
Bien, C'est une excellente question. Puis, j'ai envie de commencer par le fait que comme ça touche l'alimentaire et l'apparence physique, ça vient toucher des valeurs aussi chez nous qui sont sensibles. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tendance, avec tous les idéaux de beauté et puis toute la société dans laquelle on vit avec une promotion assez grande des régimes et des diètes, c'est sûr qu'on a moins tendance à se questionner rapidement sur pourquoi une personne entame un régime, une diète, puis pourquoi est-ce que ça pourrait déraper? Mm-hmm. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui devient assez banal ou même normal de voir quelqu'un dans notre entourage faire un régime. Donc, on a moins tendance à se questionner. C'est ce qui fait que ça peut facilement évoluer rapidement sans qu'on s'en rende compte. Puis pour la personne qui souffre du trouble alimentaire, c'est tellement une problématique qui est insidieuse, qui commence hyper doucement, puis qui s'installe tranquillement, que c'est difficile de s'en rendre compte rapidement parce que ça va partir d'intentions qui sont pas mauvaises à la base. Donc, par exemple, de vouloir se remettre en forme, donc de recommencer à aller au gym, sauf que tranquillement, les personnes qui sont prédisposées à avoir le trouble vont développer un caractère obsessionnel là, autour de l'alimentation, l'exercice, donc ça va augmenter, ça va prendre de plus en plus de place au fil du temps dans leur vie, ce qui va les couper aussi un peu de leur environnement, puis de leur relations sociales.
Mais qu'est-ce qui cause les troubles alimentaires?
Oh, il y a autant de causes que de gens qui en souffrent. C'est vraiment, il y a des caractères biologiques, des caractères sociaux également. Donc, tout ce culte de la beauté, culte de la minceur dans lequel on est, qui nous instaure beaucoup de pression par rapport à remplir un idéal de beauté. Donc, on va vouloir faire des efforts effrénés pour y arriver. Des vulnérabilités aussi au niveau de la santé mentale. Donc, des gens qui ont des historiques de dépression, anxiété aussi dans la famille. Donc, vraiment tout un mélange. Il n'y a pas un facteur qui va faire que ça se développe, mais c'est vraiment une multitude, donc ouais, à travers les facteurs bio, psychosociaux et familiaux.
Mais est-ce que c'est un trouble qu'on peut qualifier de trouble de santé mentale?
Oui, exactement. Puis souvent, les gens, on oublie que c'est un trouble de santé mentale à proprement dit, mais c'est vraiment la portion alimentaire, là, c'est vraiment, là, dites-vous, la pointe de l'iceberg. Là, c'est vraiment là, les comportements qu'on voit, donc qui sont tangibles pour nous. Mais le vrai cœur de la maladie, c'est tout ce qui est sous la surface, donc tout ce qui est la souffrance interne, la souffrance psychologique, la détresse, l'anxiété, les caractères dépressifs aussi en dessous de ça, puis impulsifs. Donc, vraiment beaucoup de souffrance au-delà du caractère alimentaire.
Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a de l'espoir?
Oui, c'est possible de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir avec de l'aide. Tu sais, c'est pour ça aussi notre campagne, c'est vraiment de briser l'isolement. Je pense que c'est la clé aussi principale. Le premier pas vers la sortie du trouble, c'est d'en parler avec quelqu'un de confiance, avec un proche ou avec un professionnel en qui on a confiance pour essayer d'aller comprendre d'où est-ce que ça vient, donc qu'est-ce qui l'a déclenché, puis en comprenant qu'est-ce qui a déclenché le trouble, c'est ce qui va nous aider à travailler et à trouver d'autres outils pour pallier à ces comportements-là qui peuvent être problématiques pour nous.
Et quel genre d'activités vous offrez, des activités de sensibilisation cette semaine, justement de sensibilisation aux troubles alimentaires?
Oui, donc cette année, la semaine va être, elle est toute en ligne là, avec la pandémie. Donc, oui, beaucoup de webinaires, de conférences là, qui sont disponibles sur le site de la semaine de sensibilisation. On a trois beaux guides d'activités aussi qui sont disponibles pour les proches, les gens qui souffrent de troubles alimentaires et aussi pour les enseignants dans les milieux scolaires. Donc, des activités à faire sur l'estime de soi, l'image corporelle, par exemple. Ça se passe beaucoup sur ça, puis sur nos réseaux sociaux également, donc des petites capsules ici et là pour sensibiliser les gens là, à ces problématiques-là.
Oui, et sur la page Facebook, je ne sais pas si c'est la page Facebook de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, mais vous annoncez un lancement de livre intitulé « Dépasser à épanoui, surmonter l'épreuve pour se reconstruire » de Stéphanie Labonté. C'est aujourd'hui que ça se passe? Je vois que c'est à 17h jusqu'à 19h, un lancement sur live Facebook via la page de Signé JM.
Oui, donc c'est ça, ça fait partie des événements là, de la semaine de sensibilisation. Donc j'invite les gens à s'y rendre si ça peut les intéresser, à rencontrer l'auteur et son livre.
Bien oui, puis c'est aujourd'hui. Puis un peu plus tard, je vois qu'il y aura une animation par Mélissa Collard-Tremblay, l'activité physique à prescrire ou à proscrire? Drôle de question quand même. L'activité physique à proscrire, ça se peut, ça? C'est vrai qu'on peut aller... ça peut devenir aussi une obsession.
Oui, exactement. Je pense que le titre est intéressant, puis ça permet d'aller voir aussi. Notre but, c'est jamais de dire c'est complètement proscrire. Je pense que c'est d'aller voir dans quel but est-ce qu'on fait ça, puis quel genre d'activité je fais et pour quelle raison, puis est-ce que j'aime ça. T'sais, au final, ça c'est beaucoup au niveau du plaisir. Si le plaisir est au rendez-vous, généralement, c'est ce qu'on va encourager plus que de choisir une activité en fonction de ses apports au niveau de la perte de poids, par exemple.
Parfait. Si on a besoin d'aide, comment on fait pour vous joindre?
Oui, donc j'invite les gens à communiquer avec nous là, via notre site Internet, donc annettequebec.com. Donc, il y a toutes les informations sur les services en ligne de texto-clavardage. Sinon, on a aussi la ligne d'écoute, donc qui est disponible de 8h le matin jusqu'à 3h du matin au 1-800-630-0907. Donc là, ça permet aux gens de parler avec un intervenant d'ANED en toute confidentialité. Ça peut être les gens qui souffrent qui nous appellent, ça peut être des proches, puis ça peut être également des intervenants s'ils ont des questions là, par rapport à des usagers de leur service.
Jérôme Tremblay, sexologue et coordonnateur chez Anorexie et Boulimie Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci à vous.